Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Sono dei mutanti, sono cambiati, quindi non credo che si possa far riscoprire alle nuove generazioni il fascino del cinema.
Chemin vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 10h53 et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma, de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Cette valse minimaliste et glacée, c'est celle de l'oiseau mécanique qui accompagne Casanova dans chacune de ses conquêtes. Battant des ailes dans une chorégraphie répétitive, cet automate mime les gestes de son maître qui s'exécute sur le corps de la femme qui s'offre à lui. Tel est le Casanova de Fellini. Froid, malsain et détestable, il semble avoir été inventé pour nous déplaire, et c'est bien là l'intérêt du film. Bonjour Emmanuel Meunier.
Bonjour.
À la question « Pourquoi fais-je ce film ?», la réponse est toujours la même. Parce que j'ai signé un contrat. Je n'ai lu les mémoires de Casanova qu'après. Et j'ai tout de suite été saisi par une sensation de vertige et par la mortifiante impression d'avoir fait un faux pas. Bernardino Zapponi, mon co-scénariste, essayait bien de me rassurer en me rappelant que pour le Satyricon, il m'était arrivé la même chose. Cela n'arrangeait rien. Certes, là encore, j'avais d'abord signé et lu Petron ensuite. Mais, le livre refermé, j'avais ressenti une émotion, comment dire, très favorable au film. Tandis que, cette fois, le projet n'a tenu qu'à l'acharnement hystérique mis à le réaliser. J'étais forcé d'y arriver. Le film a donc mûri par nécessité, par désespoir. Son optique est étrangère aux mémoires, à Casanova, au XVIIIe siècle. Je serai franc, lire cet annuaire téléphonique, ce bottin des événements, naviguer dans cet océan de pages arides écrites sans passion et qui met en évidence une rigueur de statisticien pédant, méticuleux, pas même menteur. Oui, cela ne m'a procuré que gêne, dégoût, indifférence.
Ce qui est certain, c'est que pour ce film-là, je suis partie d'un sentiment d'aversion. Mais à présent, je crois que je suis sincère si je dis que cette aversion, cette antipathie, ce dégoût, cette nausée, ces sentiments de tension, de vigilance perpétuelle, étaient les sentiments qu'il me fallait pour pouvoir faire les films. Comme vous voyez, je range toujours les choses à ma façon.
Vera figura, vera natura, slanza dei raggi come un'aurora, che tutti quanti te ne innamora. A Venezia!
Emmanuel Meunier, vous êtes docteur en études italiennes, vous enseignez à l'école supérieure du tertiaire et ses métiers à Besançon, et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Fellini et Casanova » aux éditions Culture et Société. Et c'est vous qui venez relever le défi de parler de ce film aujourd'hui. Pourquoi un défi ? Bien parce que comme l'avoue Fellini lui-même dans le texte qu'on a entendu, puis dans l'extrait ensuite l'archive où on entend sa propre voix le dire, ce personnage l'a dégoûté, il a une aversion pour le texte lui-même de Casanova, et pourtant, en 76, sort le film dont on entend ici la scène d'ouverture. C'est là tout l'intérêt du film en réalité, cette aversion initiale qui donne lieu à chef-d'œuvre ou au contraire film raté, c'est selon les goûts. Emmanuel Meunier.
Oui, tout à fait. C'est effectivement très caractéristique de remarquer que Fellini entretenait des rapports plutôt étranges avec ce qu'on pourrait même appeler sa créature, parce que il le déteste. En même temps, il le déteste, mais il en est un petit peu proche. Voilà, à la fois Fellini, il est Casanova HAIT et il est EST Casanova aussi. Parce qu'on remarque bien que Casanova, c'est un peu l'archétype de l'italien, menteur, bavard, prisonnier d'une mamma dont il a peine à s'affranchir, et que Fellini est un petit peu comme ça, comme tous les Italiens. Donc il se retrouve dans ce personnage, et en même temps il retrouve tous ses défauts, tout ce qu'il déteste. Voilà. C'est pour ça que ces sentiments un peu contraires que résume très bien l'extrait que nous venons d'entendre sont effectivement à la base, sont le substrat de la création de ce film.
Le film sort en 1976 et c'est l'aboutissement d'années de travail, de galère, de production, de tournage. Peut-être c'est le film de Fellini qui lui a causé le plus de problèmes.
Oui, je pense que c'est le tournage le plus long, la gestation la plus longue. Il a fallu 3 ans, on recense les premiers échos de la création du film dans les journaux en 1974. Et donc le film sort au mois de décembre 76 en Italie et au printemps suivant dans les autres pays. Donc c'est vraiment une gestation très longue, très difficile, marquée par des péripéties épouvantables, une équipe technique en grève, des morts, des bras cassés, des jambes cassées. C'est une gestation très compliquée.
Ce qui se voit dans le résultat final, puisque finalement il y a comme 3 couches différentes, qui sont 3 versions du récit, des versions qui sont celles de Fellini, mais qui évoluent à chaque fois que le tournage reprend.
Oui, c'est vrai qu'il est très intéressant de regarder ce film dans une perspective génétique, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, dans le feuilleté de la préparation du film, on trouve un premier scénario inédit, une seconde réécriture avec des scènes coupées, une troisième réécriture du scénario qui a été faite après le tournage, et puis donc le tournage en lui-même, où on recoupe encore des choses, et la post-synchronisation qui vient encore modifier des éléments. Donc c'est un film qui a été extrêmement fait et défait par Fellini.
Et quelles sont-elles ces 3 types d'interprétations différentes du personnage ?
Donc Fellini, au tout début, s'est dit qu'il allait peut-être se rapprocher du personnage historique, puisque ce qu'il avait l'air de détester, c'était plutôt le mythe du libertin, le mythe de Casanova. C'était ça qu'il insupportait un petit peu, ce fanfaron, cet homme aux innombrables conquêtes. Donc il est allé creuser un petit peu derrière le mythe pour retrouver le personnage historique qui lui avait donné naissance. Puis après, il s'est dit que quand même, le mythe, c'était une bonne façon d'être un petit peu désagréable avec son personnage. Donc il s'est mis à exploiter le mythe, à le boursoufler, à l'enfler, à lui donner vraiment une ampleur énorme. Puis ce mythe a fini par éclater, parce que c'était vraiment trop chargé, trop lourd. Et ça a laissé toute la place libre à Fellini pour proposer un type, en fait. Voilà, le type d'un personnage qui devient plus fellinien que casanovien.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que Fellini fait des films assez félliniens. C'est peut-être un...
Vous le caractérisez comment, félinien ?
Alors, Fellini est peut-être l'un des réalisateurs qui met le plus en scène ses propres fantasmes, son propre univers, voilà, surtout son univers onirique. Donc, il a traîné un petit peu son personnage, sa créature, vers cet univers. Il l'a vidé de sa substance historique, mythique. Casanova rencontrait énormément de têtes couronnées, par exemple, parcourait l'Europe, etc. Était quand même avant tout un aventurier des Lumières, plus qu'un libertin. Et Fellini l'a réduit au simple statut de libertin, et de libertin en plus, disons-le, qui n'a pas une réputation très très agréable. C'est-à-dire que même l'amour dans le film de Fellini n'est pas bien fait par Casanova.
L'a réduit ou l'a enrichi ? Parce que par ailleurs, ce qui pourrait apparaître comme une réduction de l'épaisseur psychologique du personnage, c'est indéniable, est aussi le corollaire d'une amplification esthétique.
Bien sûr.
C'est-à-dire que non seulement le visage de Casanova, mais aussi la manière dont est filmé ses déboires, ses activités sexuelles qui sont très nombreuses au sein du film, et son errance, il y a un point de bascule à partir duquel il va tomber dans une forme de déchéance. Tout ça est une succession de tableaux extraordinaires.
Oui. C'est-à-dire que Fellini a enrichi le personnage de sa propre vision, effectivement, tout en le privant de ce qui faisait, à la base, son substrat historique et mythique. Oui, effectivement.
C'est quelqu'un qui ne te permet pas d'être ignorant, dit Fellini. Il s'impose partout. Il mesure 1m91, dit de lui qu'il peut faire l'amour 8 fois de suite, rendant là aussi toute compétition impossible, traduit des textes latins et grecs, connaît l'Arioste par cœur, s'y connaît en mathématiques, est un bon acteur, parle très bien le français, a connu Louis XV et la Pompadour... Mais comment peut-on vivre avec un con pareil ?
Amor mio, ti prego, lascia che io ti tolga quei panni troppo severi, che così poco si addicono al nostro incontro d'amore.
Dobbiamo attendere, eh?
Qui?
Mon amant de Bernice.
L'ambassadeur de France? Voilà qui m'excite plus encore. Il nous donne un piment à mon goût.
Cette île lui appartient. Et il la prête volontiers et demande en compensation d'assister sans être vu à nos débats.
Dis-moi d'où cet homme bizarre pourrait-il nous voir.
Chut! À présent, il est là. Tu vois sur ce mur ces deux poissons?
Oui.
Il s'est posté derrière. Si tu joues bien ton rôle, il ne s'ennuiera pas.
S'ennuyer? Avec moi? Mais il va être époustouflé.
Oh, vraiment?
Jamais il n'aura vu ta féminité et tes grâces ainsi exaltées. Par un amant aussi bien élevé.
Fais voir! Oh, quel magnifique bijou qu'il est beau! Il est en or? Et quel est cet oiseau?
Scène du film, Emmanuel Meunier, on fait parvenir un message secret à Casanova qu'il donne rendez-vous. Et lorsqu'il se rend à ce rendez-vous, il voit cette nonne, dont il comprend bien d'ailleurs que c'est son but, hein, c'est de pouvoir coucher avec elle, et elle veut coucher avec lui, mais sous l'œil de l'ambassadeur, qui est caché derrière une fresque dans la salle où il se trouve. Hein, il y a deux poissons qui se rencontrent, et l'œil du poisson est ouvert, ce qui permet à l'œil de l'ambassadeur de regarder la scène. Celle-ci le sait, lui-même le sait, donc il s'agit de redoubler la performance d'un spectacle pour être vu, non seulement par l'ambassadeur, mais aussi par le spectateur. Dès le départ, dès cette scène initiale, le dispositif est lancé.
Oui, tout à fait. Effectivement, on a l'impression que le spectateur se place souvent en position de voyeur pour les ébats de Casanova, qui sont filmés de façon assez symptomatique de ce voyeurisme. Durant toute la première partie du film, les ébats de Casanova seront filmés toujours de la même façon, à savoir des gros plans ou des plans américains sur le visage de la partenaire, avec le corps de Casanova qui rentre dans l'écran, d'abord aux trois quarts, puis ensuite en entier, puis l'ombre de Casanova sur le visage de ses partenaires. Donc on a vraiment l'impression d'assister comme si on regardait nous aussi comme l'ambassadeur de Bernice, effectivement par un petit trou de serrure. Et au fur et à mesure du film, le spectateur est mis de plus en plus à distance de ses performances et Casanova, au bout d'un moment, l'âge venant, ne peut plus assumer de besogner aussi laborieusement ses conquêtes et se retrouve en position couchée avec les jeunes femmes qui le chevauchent. Voilà. Mais pour cette scène de voyeurisme assez inaugurale dans le film, elle est prise à l'histoire de ma vie, donc aux mémoires de Casanova, avec bien évidemment un changement de ton très très important, puisque Fellini la rend un petit peu caricaturale, les ébats ressemblent un petit peu à une scène de théâtre, le décor aussi est assez spécifique, dans une sorte de petit, donc ce qu'on appelle des casins à Venise, c'est-à-dire des petites maisons de plaisir, couvertes, tapissées de miroirs, mais qui ne sont pas des miroirs joyeux, où les amants peuvent se retrouver, comme dans les mémoires de Casanova, mais des miroirs opaques, un petit peu ternes, qui donnent à cette scène ce que certains critiques ont vu comme une lueur bleutée d'aquarium, un petit peu. Voilà, donc la scène est évidemment beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus ludique dans l'histoire de ma vie. Et Fellini la félinise depuis le début pour nous poser un petit peu ce personnage et nous montrer quelle vision il veut donner de ce conquérant qu'est Casanova.
Qui le réduit à un statut d'automate à l'image de son oiseau mécanique qu'il trimballe partout. Hein, ce petit oiseau qui sort de sa boîte au moment où lui-même accomplit l'acte sexuel. Il sort, il déploie ses ailes dorées et on a la musique de Nino Rota, très emblématique ici, un peu mécanique glacée au synthétiseur. C'est quoi? C'est une espèce de double pour montrer le caractère complètement automatique du personnage?
C'est une sorte de métaphore en fait des organes sexuels de Casanova puisque l'oiseau, ben d'ailleurs oiseau en italien aussi, uccello, est utilisé pour désigner les parties génitales masculines. Donc le fait que l'oiseau sorte tout d'un coup de ce grand étui noir de forme un petit peu oblongue, à l'image de Casanova qui sort son sexe pour pénétrer ses partenaires, voilà, ça métaphorise un petit peu donc l'acte sexuel. Et puis ça lui donne un petit côté aussi un petit peu blasphématoire, parce que l'étui de l'oiseau mécanique n'est bien sûr pas sans évoquer un tabernacle. Donc voilà, ce qui recèle dans la religion catholique le ciboire. Donc quand ce Casanova ouvre cet étui, d'ailleurs dans cette scène-là, je ne sais pas si on l'a entendu tout à l'heure, mais la religieuse lui dit, on dirait un tabernacle. Oui. Donc il y a un côté un peu religieux, un peu païen et évidemment hautement blasphématoire.
Mais est-ce que c'est l'oiseau métaphorise le sexe de Casanova, ou au contraire, est-ce qu'il ne le réduit pas à sa dimension la plus matérielle? Parce que finalement, Fellini sait très bien filmer les organes. On va parler d'Amarcord cette semaine, hein, où il y a des fesses et des seins en permanence, mais très sensuels, qui empêchent l'écran. Ici, c'est le sexe est filmé de manière très crue, très froide et très automatique, encore une fois.
Oui, mais ça lui permet aussi de ne pas filmer les organes masculins, parce que Fellini est effectivement plus habile et plus enclin à filmer les formes féminines, surtout lorsqu'elles sont généreuses. Et ça lui permet aussi effectivement de réduire le personnage juste à cette expression-là, quoi, d'en faire un marathonien du sexe, ce qui a été reproché pas mal aux films de Fellini d'ailleurs.
Ce qui d'ailleurs fait que Fellini, en fait, il est jaloux de sa créature.
Bien sûr.
L'extrait que j'ai lu juste avant de diffuser l'extrait, il dit bien, comment peut-on vivre avec un con pareil, parce qu'il fait toute la liste des choses que lui-même sait faire. C'est rare finalement d'avoir un rapport de jalousie entre le réalisateur et le personnage qu'il met en scène. Et c'est là encore l'intérêt du film, me semble-t-il.
Tout à fait. Le personnage devient vraiment... C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Fellini et Casanova comme s'il s'agissait de deux personnages en chair et en os. Le personnage devient vraiment un rival pour Fellini. Et d'ailleurs, se matérialise, c'est quelque chose d'assez intéressant dans la jeunesse du film. Un ami médium de Fellini, Gustavo Roll, a organisé une rencontre entre Fellini et Casanova en faisant appel à l'esprit de Casanova. Et Fellini s'est montré catastrophé parce que Casanova s'est mis à lui donner des conseils sur les positions sexuelles qu'il devait adopter ou celles qu'il devait au contraire délaisser parce qu'il était trop âgé. Donc c'est vraiment placé en position de rival, de donneur de leçons, ce qui évidemment n'a pas du tout plu à Fellini, qui avait un petit ego quand même en la matière.
C'est un film qui peut faire penser au kaléidoscope. Avez-vous jamais vu un kaléidoscope? Ces jouets que l'on applique à l'œil pour voir des géométries étincelantes, parfois somptueuses, mais dépourvues de toute signification ou bien chargées de significations insaisissables. Il suffit d'une secousse et on a l'impression que les images changent entièrement, tandis qu'il s'agit toujours des mêmes pierres colorées. Voilà, les films d'un point de vue figuratif, comme décor, comme épisode, comme sentiment. En quelque sorte, cette macabre séduction, la fixité de ces petites pierres colorées qui se composent et décomposent perpétuellement dans un jeu qui pourrait se poursuivre à l'infini. C'est un film qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin.
Je suis resté étranger au récit. Et c'est ce refus total, cette absence d'affinité entre Casanova et moi, cette nausée, cette répulsion, qui m'ont indiqué dans quel sens organiser mon film. Le vide. Un film sur le vide. Aucune idéologie, aucune sensation, aucune émotion, même pas esthétique, et pas de 18e siècle. Aucune critique sociologique non plus. Une absence de tout. Un film mortuaire. Alors, me direz-vous, que reste-t-il ? Et bien des formes qui se structurent en volume, des perspectives scandées, glacées ou hypnotiques. Je me suis raccrochée désespérément à ce vertige du vide comme à l'unique point de référence qui me permet de raconter Casanova et sa vie inexistante. Et dans cet œil vitreux qui se laisse glisser sur la réalité et dépasser, effacer par elle, sans intervenir par un jugement, sans l'interpréter par un sentiment, eh bien il m'a semblé voir une attitude existentielle très proche de la nôtre. C'est la non-vie, avec ses formes vides, qui se composent et se décomposent. La fascination d'aquarium, l'ivresse de l'oubli, où tout est totalement aplati, ignoré, parce qu'il n'y a pas de pénétration ni d'intimité humaine. C'est finalement quand Fellini en parle en termes esthétiques qu'il est le plus intéressant sur le sujet de son propre film Emmanuel Meunier. Et quand il dit qu'il veut faire un film sur le vide, c'est-à-dire des formes qui se structurent en volume, c'est exactement l'esthétique de ce film. Et là encore, tout son intérêt, c'est-à-dire que finalement le défi que relève Fellini, au-delà de la rivalité avec le personnage qu'il met en scène, consiste aussi à donner à voir... Tout simplement, et c'est le plus difficile du monde, hein, c'est ce qui compose notre existence, dit-il, notre attitude existentielle, qui est ce qui l'obsède dans tous ses films. Et ici, il le réussit de la manière sans doute la plus flagrante.
Oui, tout à fait. Ça rejoint ce que vous disiez hier avec Jean Gilly sur le film La Dolce Vita. Effectivement, Fellini se cherche un petit peu, cherche un chemin, cherche un sens à sa création artistique. Et là, une fois de plus, il essaye de le trouver. On a dit du Casanova que peut-être plus encore que 8,5, c'était véritablement une sorte de psychanalyse de Fellini, que c'était un petit peu lui qu'il mettait en scène à travers ce personnage, ce qui me semble tout à fait exact. C'est vrai que la crise existentielle de Guido dans 8,5 était un petit peu plus pensée que vécue véritablement, mm-hmm. comme le rappelait Jean Gilly hier, alors que dans le Casanova, on a l'impression que vraiment Fellini se sent proche de ce personnage et qu'il en fait, comme vous le disiez, une sorte de métaphore, de figure de proue de nous tous, en fait, de la société telle qu'elle est à l'heure actuelle, de sa course effrénée vers les plaisirs, vers le vide. Fellini s'est beaucoup appuyé pour cette façon société du spectacle sur le livre de Robert Abirached, Casanova ou la dissipation, qui dépeint justement ce personnage qui court après on ne sait quoi, voilà, déjà au XVIIIe siècle comme nous le faisons aujourd'hui.
Et pourtant rien n'est vide dans son esthétique, il y a une espèce de baroque qui est saturé. C'est-à-dire en termes d'esthétique, si on s'en tient vraiment à l'esthétique, le film peut évoquer à la fois le meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway et Phantom of Paradise de Brian De Palma. Il y a cette espèce d'esthétique outrancière, toujours un peu cynique, toujours un peu à côté, qui en fait est glaçante et malsaine.
Oui, je pense que c'était vraiment l'effet recherché par Fellini, et il voulait construire, a-t-il dit, son film comme une succession de tableaux fixes, donc sans lien narratif, sans lien diégétique les uns avec les autres, un petit peu comme vous l'avez souligné hier aussi pour La Dolce Vita, faire un film, comme le disait l'extrait tout à l'heure, kaléidoscopique, comme s'il s'agissait vraiment de multiples regards, un petit peu comme ça pris sur le vif. C'est pour ça que la plupart des plans sont composés vraiment comme des tableaux. Il y a un énorme travail réalisé en amont avec des peintres et il n'est pas rare de trouver dans des scènes des tableaux au mur qui reprennent le même sujet que le sujet de la scène en lui-même, comme s'il s'agissait d'une mise en abîme de la scène proprement dite. Voilà, et donc des tableaux fixes posés les uns à côté des autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché par la critique. On lui a dit, vous avez fait un film déconstruit, des petits morceaux posés par-ci par-là, sans lien narratif, et on a du mal, en fait, à suivre l'histoire. Effectivement,
c'est le cas de tous ces films,
c'est
en réalité.
Juste, mais voilà, c'est le cas de tous ces films. Puis je pense que c'est vraiment une façon de procéder et ça ne colle pas si mal à l'existence du vrai Casanova qui avouait aller où le vent le pousse, quoi. Donc, qui était un petit peu lui aussi dans des successions de moments et d'instants.
Casanova è splendido nel suo mantello azzurro. Passa per le calli e ogni donna non è che un sussurro. Sguardi che trafiggono livori, amori e pene. Casanova vive, c'è Venezia nelle sue vene. Casanova, Casanova, illusione e verità, nel segreto dell'alcova, cosa cerca, cosa vuole, non sa. Casanova, Casanova, il ricordo non ha età, non ha età ogni donna nuova, ma la vita ce l'ha.
Casanova, c'est le film de Fellini dont nous parlons aujourd'hui dans le cadre de cette série d'émissions consacrée au cinéaste Federico Fellini. La chanson de Katia Ranieri qui a repris en chanson tous les thèmes des films de Fellini. Et pour parler de ce film aujourd'hui en studio avec moi en direct, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Meunier qui est l'auteur d'un livre intitulé Fellini et Casanova. On comprend aujourd'hui que c'est un duel en réalité, publié aux éditions Culture et Société.
Many years later in London, I did indeed nearly cross, of my own volition, the final threshold. But the blame for that morbid temptation lay at the feet of the infamous shopping mall woman and her equally villainous daughter.
You thief! 200 you owe me, and then there were the corsets and the silver mirror!
I will not put up with these insinuations. Lord Winston himself has this warranty for me. Take your paws off me, you little whore!
Whore? Putain? Moi? Oh, je n'en ai vraiment pas eu l'occasion avec vous, impuissant!
Et ma belle-mère, au maudit jour, je vous offre d'être notre locataire. Espèce d'imposteur, vous et vos histoires d'horoscope.
Ta fille et toi, vous n'êtes que des garces. Vous m'avez même contaminé, puisque j'ai le plus précieux, ma santé. Espèce de syphilite qui ignoble à présent de par votre faute. Toulon nous fait des gorges chaudes de mon mal.
Ordure, c'est toi et la limace pourrie de ton entrejambe qui nous allez contaminer.
On est trop cocher. Arrêtez, arrêtez!
Cochez!
Je vous transmets de mon
épée,
sans serre!
Tu peux descendre! J'ai dit non!
Yes. Ah. Je t'ai crevé! C'est ça,
maman! Il a pris la valise! Ignoble voleur! Un pas de plus et je te tue!
Véramine, maudite pute macrelle! Ah. Vous déshonorez le nom de femme!
Va-t'en!
Pourquoi ? Giacomo,
il se peut que ton étoile soit sur le chemin du déclin. Tu as supporté les pires des injures.
Tu as connu tout à l'heure la plus grande humiliation de ta vie, et puis pour la première fois, tes sens n'ont pas été en mesure de répondre à l'appel de ton désir. Et voilà que surgit la mort lugubre. Soit, s'il me faut comparaître et affronter la Camarde, je ne suis pas à le faire. Mais j'irai à elle, vêtue de mes plus beaux atours,
en habit de fête.
Et avec toi, le Tasse, mon tendre ami dont ces vers me reviennent en mémoire à ce moment suprême. Ô mort! Oh, douce mort, que ton souffle m'enlève. Vois, je suis un rameau de l'arbre détaché, un corps raidi.
Une rectification, Emmanuel Meunier, j'ai dit que votre livre était publié aux éditions Culture et Société, c'est le nom de la collection, il est disponible aux presses universitaires de Vincennes. Voilà, cette rectification est faite et je tiens à la faire parce qu'en plus le livre est un éclairage parfait de la discussion que nous avons aujourd'hui. Alors nous sommes en train d'entendre Casanova au moment, disons, un point de bascule dans le film, la deuxième partie du film qui annonce sa déchéance. Casanova, comme nous, vieillit, ses sens ne sont plus en mesure de satisfaire son désir, dit-il, ce qui est une jolie façon de nommer l'impuissance. Et à partir de ce moment-là, où il se fait foutre dehors du carrosse par ses anciennes amante, espèce de sorcière, il se met à réciter des poèmes sur la mort et à errer dans une forme de déchéance qui lui conduira jusqu'à la fin du film et la fin de sa vie, sans doute, Emmanuel Meunier.
Voilà, oui, c'est vraiment une séquence charnière, effectivement, qui va marquer un peu le deuxième acte du film, et il va même, donc c'est ce qu'on entend à la fin de la séquence, il va même tenter de mettre fin à ses jours, de façon assez grandiloquente, en s'immergeant progressivement dans les eaux bouillonnantes de la Tamise et en récitant le Tasse, vêtu de ses plus beaux atours. Donc, c'est un suicide vraiment mis en scène et qui, évidemment, n'ira pas jusqu'à son terme parce que Casanova, que ce soit le véritable Casanova ou même le personnage de Fellini, aime trop la vie pour y mettre fin. Et puis parce qu'il sera détourné de ce sombre projet par une silhouette très mystérieuse de femme gigantesque. Donc, évidemment, l'appel de la femme, la découverte de nouveaux horizons va le dissuader de mettre fin à ses jours et il s'arrêtera. Mais ça marquera très nettement, effectivement, comme comme vous l'avez souligné quand même, le basculement dans sa vieillesse, une vieillesse qui commence relativement tôt au XVIIIe siècle, disons-le, il a une cinquantaine d'années, peut-être même pas, mais effectivement, il va connaître beaucoup plus de déconvenues et se diriger vers un avenir beaucoup plus sombre à partir de cette scène du film.
Et cette scène a lieu dans le brouillard, et c'est important de le préciser parce que le brouillard revient souvent dans les films de Fellini, que ce soit dans 8 et demi, la scène dans les bains thermaux, on voit les hommes qui se regroupent dans une espèce de sauna qui est fait de brouillard. Dans Un Marcord, dont on parlera également, le brouillard dans lequel le grand-père se perd, justement. Ici, ce point de bascule s'effectue dans un brouillard qui va se dissiper, mais qui ne va pas effectuer une sorte de retournement. C'est-à-dire qu'il se dissipe pour mieux dévaler ensuite.
Oui. Tout à fait. C'est vrai que le brouillard est assez présent dans le film de Fellini, que ce soit une brume légère qui court à la surface de l'eau, ou ici vraiment le brouillard londonien, un peu à la manière du Londres dépeint par Hogarth au XVIIIe siècle. Il y a le brouillard et il y a également aussi, chose assez intéressante à noter, l'eau véritable, qui n'est pas toujours présente dans ce film, parce que Fellini aime bien, vous l'avez souligné hier, faire du réel plus vrai encore que le réel. Donc il recrée, dans de nombreuses séquences du Casanova, il recrée l'eau sous forme de grande bâche plastique. Et dans cette scène, ainsi que dans la séquence introductive du film, l'eau est véritablement présente. Donc ici, il s'agit d'une sorte de tourbillon de la Tamise. Donc on voit que de temps en temps, Fellini laisse place au réel, comme si le réel reprenait un petit peu la main et allait forcer Casanova à se mettre en face de son destin, un petit peu.
Dans l'extrait qu'on a entendu, il faisait référence à la plus grande humiliation de sa vie et il s'agissait du départ de son amour Henriette, femme dont il tombe amoureux et qui le quitte au matin d'une nuit d'amour. Et c'est là finalement le vrai point de bascule du film qui va ensuite conduire 3 ans plus tard à la scène du carrosse. L'ellipse permet de ne pas s'étendre sur la souffrance du personnage, mais il souffre vraiment. Finalement, c'est là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que la douleur est réelle. Elle est peut-être feinte, mais on sent qu'ici, c'est un Casanova qui se fait prendre à son propre piège. Et d'ailleurs, là, je parle du texte de Casanova lui-même et pas du film. Ce qui distingue le personnage de Casanova d'un Don Juan, par exemple, c'est qu'il tombe véritablement amoureux.
Oui, il est véritablement amoureux à chaque fois. C'est sincère. Voilà, il ne séduit pas les femmes comme Don Juan juste parce que les commencements ont des charmes inexprimables, nous dit Don Juan, mais vraiment parce qu'il aime la femme. Il aime les femmes profondément, sincèrement.
Alors que dans le film, c'est ambigu. On a l'impression c'est un Casanova qui aimerait être un Don Juan,
mais
qui n'y parvient pas et donc
en souffre.
Exactement ça.
En fait, la figure de Don Juan prend un petit peu le pas sur celle de Casanova dans le film, puisque Fellini, c'était aussi l'un de ses buts, veut montrer que sa vie n'est qu'une succession de bonnes fortunes. Mais le véritable Casanova était beaucoup plus attaché aux femmes et surtout à Henriette, qui est l'unique femme qu'il a véritablement aimée. Et qui en effet va le quitter de façon un petit peu mystérieuse, des pressions familiales, on ne sait pas trop, au petit matin, en le laissant là, mais qu'il... Alors certains imaginent qu'il l'a revu après, probablement non, voilà, mais effectivement elle lui a laissé une empreinte très très profonde.
À l'âge de 49 ans que j'avais alors, il me semblait que je n'avais plus rien à espérer de la fortune. Déité coquette autant que capricieuse, qui n'aime et ne favorise que la jeunesse, et qui semble abhorrer l'âge mûr, et surtout la triste vieillesse. Il me semblait qu'à Venise, je devais vivre heureux sans avoir besoin des faveurs de l'aveugle déesse. Je comptais pouvoir me suffire en tirant parti de mes talents, me croyant certain de ne plus être en butte à aucun malheur, armé, je l'étais, d'une grande expérience, et d'ailleurs désabusé de toutes les vanités qui auraient pu me conduire dans le précipice. Il me semblait aussi que les inquisiteurs d'État se sentiraient obligés de me procurer, dans Venise même, quelque emploi dont les émoluments me suffiraient pour vivre avec aisance, étant seul, sans famille, et disposé à me contenter du nécessaire, me passant volontiers du superflu. Enfin, je ne prévoyais pas que je puisse jamais me trouver exposé au danger de mourir de faim dans une ville où 1000 ressources faisaient vivre à l'aise une foule de gens qui, partout ailleurs, n'auraient pu vivre qu'en demandant l'aumône.
Voilà. ragione, non è la faccia cancellata.
Casanova n'est pas un visage, il a un visage stylisé. En fait, c'est le visage inexistant d'un jeune. Étant donné qu'il n'a jamais vraiment vécu, je pense donc que quelqu'un comme Casanova doit être passé tout à coup d'une jeunesse extrême à une extrême vieillesse. Et une grande vieillesse qui lui tombe dessous le jour où il n'a plus la possibilité de vivre tel il croit être. Dans sa tentative désespérée de reprendre son masque de beau séducteur, figé et vide, il s'est remis à écrire ses mémoires, qui ne sont pas vraiment des mots inventés. C'est même possible que tout ce qu'il raconte soit arrivé, ce n'est pas cela qui fait de lui un personnage authentique, presque un masque au sens de la commedia dell'arte. Ce qui compte, c'est qu'il a commencé à revivre, qu'il a retrouvé la vie et l'envie de vivre au cours de cette longue journée, toutes ces nuits qu'il a passées dans sa petite chambre de luxe où il avait pris à inventer sa vie, de même qu'il l'avait inventé jour après jour du temps où il pensait vivre vraiment.
On a beaucoup reproché à Fellini le caractère, disons, très artificiel, non seulement du film, où effectivement les décors sont faits, on voit les vagues, sont des sacs poubelles, ils s'en cachent à peine, hein, ça saute aux yeux, mais aussi les visages, et même le visage de Casanova qui est extrêmement figé, peint, presque blanc et très, très, très bizarre par son absence d'expressivité. Non seulement c'est le cas de beaucoup de films de Fellini, elle joue beaucoup avec les masques et les expressions un peu surprenantes, mais en plus ici, c'est très commode pour lui, puisque ça lui permet de mettre en scène le contraste de manière flagrante entre la jeunesse de Casanova et sa vieillesse à la fin du film, et à la fin des mémoires de Casanova. C'est un vieillard qui nous apparaît. Et Fellini choisit d'accentuer cette dimension-là, non seulement pour figurer la déchéance, mais aussi parce que, à l'écran, le dégoût est encore plus important lorsqu'on voit ce vieillard se ridiculiser en essayant encore de consommer les femmes, comme il dit, sans y parvenir.
Oui, tout à fait. Fellini a fait un énorme travail figuratif sur son personnage, sur l'acteur Donald Sutherland, à qui il a imposé de multiples transformations physiques, des heures et des heures de maquillage, il lui a rasé les sourcils complètement, lui a fait mettre un front postiche, un menton postiche, un nez postiche. Donc voilà, l'acteur n'avait plus du tout à voir avec son vrai visage. Et effectivement, du coup, c'est le même acteur qui est au début du film et à la fin du film. Donc il est extrêmement vieilli à la fin du film. Ce qui est intéressant, c'est que quasiment en l'espace d'un plan, d'une séquence, on passe du visage du Casanova au mur, on va dire, au Casanova vieux. Mmh. Voilà. Donc oui, vous avez raison. C'est dans la dernière partie de l'adaptation, c'est ce personnage de vieillard qui va vraiment prendre le pas et qui va. Alors effectivement, il y a une forme de peut-être de dégoût qui va être suscité pour le spectateur. Mais curieusement, c'est cette partie de l'adaptation avec laquelle Fellini a été le plus en phase. C'est-à-dire, c'est dans ces dernières séquences que Fellini s'est senti le plus proche de Casanova, probablement parce qu'il approchait de la soixantaine lors du tournage du film et qu'il s'est senti un petit peu aussi voilà, menacé par la vieillesse, par la mort. Et c'est peut-être dans ces dernières séquences qu'il a fait un petit peu la paix avec son personnage.
Et c'est en tout cas ce moment de la vie qui correspond dans le Casanova réel ou écrivain au moment où justement il devient écrivain, c'est-à-dire qu'il va essayer de garder sa propre vie, de la prolonger dans et par l'écriture. C'est ce qu'il disait dans l'extrait qu'on a entendu, un extrait de 77, donc juste après la sortie du film, diffusé sur France Culture. Toutes les archives de Fellini qu'on entend aujourd'hui sont des extraits des samedis de France Culture diffusés en février 77. Il dit bien, le Casanova a décidé, une fois qu'il ne peut plus porter son masque de séducteur, il se met à écrire pour rester séducteur. Et c'est un peu pareil, sans doute, avec Fellini et la réalisation de ce film qui lui a tant coûté.
Oui, très probablement. Effectivement, Casanova écrit pour revivre ses bonnes fortunes. Voilà, il dit pour jouir des plaisirs de sa vie une seconde fois. Donc ça lui permet de revivre cette jeunesse et cet âge mûr, heureux qu'il a connu, alors qu'il finit sa vie, nous le savons, dans un obscur château, à Dux, en Bohème, comme bibliothécaire d'un conte fortuné. Effectivement, c'est pas une fin de vie très heureuse pour lui, qu'il n'entend autour de lui que de l'allemand, lui qui a horreur de cette langue, qu'il perd son italien, qu'il perd ses macaronis, qu'il perd beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ce vieillard a une fin de vie assez pitoyable, qui peut-être fait un petit peu pitié à Fellini, voilà, et avec le dont il se sent un petit peu proche.
Et cette pitié qui frôle le dégoût, hein, disons-le clairement, est particulièrement imprimée et présente dans cette scène que je vous propose d'écouter, qui est une scène qui met extrêmement mal à l'aise. Alors pour tous ceux qui sont en train de se demander pourquoi ce film déplaît tant, pourquoi est-ce qu'il choque, pourquoi est-ce que finalement il a été tant décrié par la critique et par les spectateurs au moment de sa sortie, même encore aujourd'hui. Voici un exemple. Alors ici, il est sonore, mais je pense que vous pourrez tout entendre grâce au son si je vous dis que la personne avec laquelle Casanova s'apprête à coucher est un pantin, une marionnette, un automate. Écoutez.
Eyes whose beauty all this world transcends. These arms, these hands, these slender feet, this face have isolated me from mine own race and made of me a stranger amongst my friends. This waving hair of pure and shining gold, this smile that ever turns my gloom to mirth, have made for me a paradise on earth.
J'espère que vous serez indulgente envers les libertés que je prends. Mais je désire tant voir comment vous êtes au naturel. Vous ne protestez pas. Cet inventeur dément celui de votre père. Dément sans nul doute, mais poète. Oui, pour vous avoir fait si belle. Vous posséda-t-il l'incesteux? Hein? Tu m'excites en ton énigme silencieuse. Te coucheras-tu à mes côtés? Soumettras-tu ton délicat mécanisme à toutes mes voluptés? Oui. Oh oui. Oh, tu es belle, tu sais. Ah non, tu n'en refuses pas. Dis-moi, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Rosalba? Non, pas Rosalba. Ton nom est d'amour. Amour. 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 Oh, oui, c'est là ton nom. Le sais-tu? Je t'ai toujours. Oh, ma belle, je te cherche. Oh, je te cherche. Ma petite. Ma petite. Je t'ai. Ma maman. Oh, ma petite.
Viens là. Viens là. Viens là. Viens. Amore. Dammi. Amore. Dammi. Amore, dammi, moi.
Alors si l'extrait est assez explicite juste avec le son, Emmanuel Menu, il faut quand même imaginer, ajoutons-y l'image, que le plan principalement, enfin la caméra porte sur cette poupée, cet automate qui est juché sur lui, et on la voit les bras hissés, le visage un peu à la fois mécanique et étrangement vivant. Et en réalité, c'est Nicolas Berger, notre réalisateur, qui me l'a fait remarquer, il y a une femme réelle dans ce pantin.
Oui, tout à fait.
Et c'est pour ça que le regard paraît si vivant et si présent.
Oui, il s'agit d'une danseuse, en fait, qui a joué ce rôle, qui est un petit peu compliqué pour elle, parce qu'il fallait vraiment qu'elle ait effectivement des mouvements très syncopés, comme une automate. Donc on se doute bien que c'est quelque chose qui est puisé à la seule imagination de Fellini, même si le XVIIIe siècle est bien sûr dans une fascination certaine pour les automates, pour les mécanismes un petit peu complexes. Voilà, cette poupée mécanique, qui préfigure un petit peu nos poupées gonflables d'aujourd'hui, est vraiment sortie de l'imagination fellinienne pour là encore figer davantage son personnage dans ce vide et également dans cette façon de marionnette, parce que Fellini a été appelé le grand burattinaio, le grand marionnettiste. On lui a reproché à certains moments, et en tout cas on l'a souligné, le fait qu'il tirait les ficelles un petit peu de ses acteurs, qu'il les bougeait au gré de ses envies. Et c'est vraiment du coup ce qu'il va faire avec Casanova, transformer en marionnette lui aussi. D'ailleurs, c'est le sens des derniers plans du Casanova de Fellini, où Casanova se fige et devient lui aussi une poupée de cire, à l'image du mannequin qui constitue en fait sa dernière partenaire amoureuse d'ailleurs.
Et à qui il dit « j'aimerais voir comment vous êtes au naturel ».
Oui.
C'est absolument ironique, c'est justement la seule qui ne peut pas avoir d'autre naturel que son propre masque, de quoi elle est faite. Il lui dit « ton nom est amour », et c'est ce qu'il dit à ses conquêtes, effectivement, il cherche. Il parle toujours d'amour, d'amore,
oui.
comme s'il cherchait à atteindre ce qu'il souhaite sans jamais y parvenir par le corps en tout cas. Et puis, on l'a entendu, il y a ce moment où il dit quand même « maman ».
Oui.
Alors qu'il est en train de la déshabiller et s'apprête à la pénétrer. Il faut dire ici qu'il y a une scène avec la mère de Casanova qu'il rencontre. Une scène très étrange à laquelle il dit n'importe quoi à sa mère, lui ment. Et en même temps, elle est présente en filigrane tout le long du film.
Oui, tout à fait. Bah, c'est l'une des clés de lecture psychanalytique du film, en fait, notamment avec cette scène introductive dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, où lors d'un carnaval, des Vénitiens essayent de sortir une immense tête féminine de l'eau, n'y parviennent pas parce que les cordes se rompent, la tête replonge dans les eaux du Grand Canal, et beaucoup de critiques et de chercheurs y ont vu une sorte donc de clé de lecture de la vie de Casanova, et peut-être même du film tout entier, avec ce Casanova à jamais prisonnier de sa mère, dans sa camiotique que pourraient constituer les eaux de la lagune. En fait, il retombe systématiquement dans le sac amniotique, n'en sort pas, est toujours en position. Il y a beaucoup de plans, de séquences dans le film où on le représente en position fœtale, dans des espaces un peu confinés, un peu fermés, comme un ventre maternel. Ah, donc c'est pour ça qu'effectivement sa mère est présente en filigrane tout au long du film, et vous l'avez dit, de façon physique, lors d'une très brève séquence, assez incompréhensible parce que Fellini aussi, lors du montage final, a coupé les derniers mots de cette séquence que disait la mère de Casanova. Elle disait en allemand « la mère, il y a toujours la mère ». Donc ça a été coupé lors du montage.
Il faut savoir comment on écrit la mère en français. En tout cas, on peut jouer sur
alors
le mot.
Alors là, c'était Mutter. Ouais. Donc a priori, aucun doute. Mais effectivement, ça donnait quand même une petite clé pour la lecture du film. Et Fellini, dans son processus de typisation qu'on a évoqué tout à l'heure, a coupé cette dernière réplique. Peut-être pour nous enlever aussi cette clé de lecture et nous la faire trouver par nous-mêmes.
All over Casanova. Merci à vous, Emmanuel Meunier. C'est en effet la fin de cette émission. Un grand merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage publié aux presses universitaires de Vincennes dans la collection Culture et Société. L'ouvrage s'appelle Fellini et Casanova. N'hésitez plus, chers auditeurs, regardez ce film tant décrié qui déplaît tant. Et c'est bien justement pour cela que vous vous en souviendrez toute votre vie, tellement la succession de tableaux va marquer votre imaginaire. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h48. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie, qui vient nous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Hier, je vous parlais d'une anthologie qui paraît aux éditions des Belles Lettres. Eh bien, ce sera le cas toute cette semaine. Et aujourd'hui, deuxième pas sur les traces de l'individualisme libéral. Me, myself and I. Le vrai but de l'homme, non pas celui que le penchant variable de chacun, mais celui que la raison éternellement immuable lui assigne, c'est le développement le plus large et le mieux proportionné de ses forces afin qu'elles forment un ensemble. Toutefois, l'extension des forces humaines exige encore une autre condition qui se relie étroitement à la liberté, la diversité des situations. L'homme, même le plus libre, même le plus indépendant, quand il est placé dans un milieu uniforme, progresse moins. L'individualisme a mauvaise réputation. C'est en tout cas ce que l'on entend partout. Mais de Kierkegaard à l'écrivain américain John Dos Passos, en passant par le philosophe Humboldt, dont je viens de lire un extrait, des débuts de l'individualité à l'individualisme contemporain, en passant par une foule d'autres textes rassemblés chronologiquement dans cette anthologie, c'est bien un autre individualisme qui se fait entendre. Un individualisme qui, dès le 19e siècle, s'oppose à l'inégalité étriquée pour proposer une éthique de la singularité à la portée de tous. Comment chacun doit-il et peut-il devenir soi ? Telle est en effet la première question soulevée tout autant par Kierkegaard donc, mais aussi Emerson, Nietzsche ou encore le dramaturge Ibsen, tous appelés ici les navigateurs solitaires de l'individualité. Mais si chacun a à devenir soi, comment peut-il y avoir encore de la diversité à l'être ? Comment l'individualisme ne devient-il justement pas une injonction vide, conformiste, qui ne fait que diviser les hommes ? Comment ne devient-il pas précisément ce qu'on lui reproche ? Eh bien, c'est la deuxième question que nous pose l'individualisme, et la pensée de Humboldt, le premier peut-être à vraiment donner une substance à l'individu, peut nous éviter une caricature de l'individualisme. L'homme, nous dit-il, est comme la fleur. Sa forme ne tient qu'à lui, mais il se nourrit d'une matière diverse. Se développer par soi-même et pour soi-même, voilà un individualisme libéral, mais qui prend la forme de l'individuation, d'une croissance qui se déploie dans le divers et non d'un repli sur soi. Et donc, je le rappelle encore une fois, le titre de cette anthologie, c'est « L'autre individualisme ». C'est par Alain Laurent et c'est disponible aux éditions des Belles Lettres.
Merci beaucoup Géraldine et merci à tous. Cette émission touche à sa fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Fellini. Demain, nous parlerons de 8h30 en compagnie de Suzanne Liandraguig. Merci à l'équipe de Nouveau Chemin, Ariane Mintz qui a préparé cette émission, Pierre Brossard, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Élise Leu à la prise de son. Merci aussi à Alice Ramon de France Culture qui nous a donné l'idée de cette émission sur Casanova que je n'avais pas vue avant de faire l'émission. Rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. Et sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins pour réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, pourquoi pas après avoir vu le film où vous verrez la discussion aura une toute autre tonalité à vos oreilles.